Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. On va sauter deux psaumes par rapport à la semaine dernière et on va regarder le psaume 90. Psaume 90, vous le voyez, c'est le début du quatrième livre des psaumes. Psaume 90, voici donc la parole de Dieu, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et c'est la parole de Dieu. Comme indiqué au début, le psaume 90 est attribué à Moïse et c'est sans doute, c'est le seul psaume attribué à Moïse que l'on ait ici dans la parole de Dieu. Mais beaucoup d'experts remettent en question cette paternité, en partie parce que le psaume compte nos vies à 70 ou 80 ans, alors que Moïse a vécu beaucoup plus longtemps que cela. Mais pourtant, en même temps que Moïse a vécu, beaucoup d'autres personnes ont vécu des vies qui se sont arrêtées au bout de 70 ans ou 80 ans. Mais il y a de bonnes raisons, il y a beaucoup plus de bonnes raisons pour lesquelles Moïse a écrit ces lignes. Un commentateur suggère que Moïse a écrit ce psaume pendant les événements de Nombre chapitre 20. On lit à sujet de la mort de Myriam, la sœur de Moïse, de son frère, le souverain sacrificateur Aaron. On lit aussi au sujet du péché de Moïse qui a frappé le rocher à deux reprises, et un péché pour lequel il n'allait pas entrer dans la terre de la promesse. Et Moïse aurait, dans ce cas, naturellement réfléchi sur la brièveté de la vie qui est vécue sous le jugement de Dieu. Mais plus généralement, on peut penser que Moïse réfléchissait pendant tout le séjour du peuple d'Israël dans le désert, cette période où toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte à l'exception de deux, de Josué et Caleb. Et Moïse voulait qu'Israël apprenne la leçon, alors que notre péché, comme on l'a lu dans Genèse, chapitre 3, notre péché a apporté la mort et la frustration. Le peuple de Dieu peut regarder avec espoir à l'Éternel. L'Éternel qui, comme de son nom l'indique, est éternel dans sa vie. Il est aussi immuable, il ne change pas dans sa volonté de sauver son peuple. Et c'est dans, à cette lumière que Moïse conclut en priant pour la miséricorde de Dieu sur Israël, la bénédiction de la présence de Dieu pendant les difficultés, les épreuves et l'établissement par Dieu de l'œuvre de sa génération. Et c'est une bonne pratique pour nous dans nos prières que de nous concentrer sur un attribut de Dieu qui apportera une consolation dans nos épreuves, dans nos difficultés. Moïse affrontait la mortalité, ce qui l'a réjoui, ce qui l'a apporté le réconfort, c'est la nature éternelle de Dieu. Et la première, le premier point que nous voulons souligner, c'est la réalité pour le croyant, c'est l'habitation dans le Dieu éternel. Moïse commence ce psaume en disant « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Contrairement à l'être humain qui est faible, qui ne fait que passer, qui est limité dans le temps, Dieu existe au-delà du temps. Il n'est pas atteint par les influences du changement, par les circonstances. Stephen Charnock, un pasteur puritain du XVIIe siècle, qui a écrit tout un livre sur l'existence et les attributs de Dieu, souligne cette réalité. Il dit « Quand nous disons que Dieu est éternel, nous excluons de lui toute possibilité de commencement et de fin, tout flux, tout changement. Sa durée est aussi infinie que son essence et son limite. Il a toujours été et il sera toujours. Et il n'aura pas plus de fin qu'il n'a eu de commencement. » L'éternité de Dieu, en comparaison aux monts qui sont superbes et qui sont apparemment éternels, Moïse cite l'éternité de Dieu comme preuve qu'il ne change pas. Dans un monde effrayant où l'on voit le changement, et parfois le changement qui, on a l'impression, ça avance très vite, le croyant peut trouver un espoir sûr, un espoir stable, avant que les montagnes ne s'élèvent, avant que Dieu n'ait créé ce monde. Moïse nous dit, Dieu demeure d'éternité en éternité. De plus, Dieu existe sans succession dans son expérience, dans ses pensées, dans ses plans, de sorte que toute l'histoire pour Dieu est un présent éternel pour lui. 1000 ans sont à tes yeux, verset 4, comme le jour d'hier quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. À l'époque, les heures du soir étaient divisées en 3 ou 4 veilles au cours desquelles les sentinelles montaient la garde. Mais pour Dieu, même un millénaire n'est qu'une seule veille dans la nuit, au cours de laquelle il va superviser, sans tomber dans le sommeil, il va superviser son peuple, il va garder son peuple. Charles Spurgeon, dans son commentaire, nous invite à penser à tout ce que l'histoire renferme en 1000 ans. Il dit la montée et la chute des empires, la gloire et l'anéantissement des dynasties, d'innombrables événements qui échappent à la plume des historiens. Et pourtant, cette période n'est rien pour le Seigneur. Pour le psalmiste, l'être éternel, l'éternité de Dieu est liée à sa souveraineté sur toute chose. Qu'est-ce qui peut interférer avec le règne de Dieu quand Dieu est avant et après toute chose? Qu'il possède le pouvoir tout-puissant par lequel il a créé les montagnes et le monde en entier. Cette penser de cette réalisation est une bénédiction pour le croyant qui chancelle, qui défaille et qui compte sur Dieu pour son salut éternel. Il peut s'appuyer sur l'éternité de Dieu. Stephen Charnock, que j'ai cité tout à l'heure, écrit « L'éternité de Dieu est le fondement de la stabilité de l'Alliance, le grand réconfort pour le croyant. » Et c'est précisément le lien entre l'éternité de Dieu et notre espérance de salut que Moïse écrit au verset 1 « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Connaître Dieu selon sa parole, selon sa révélation qu'il fait de lui-même, et lui faire confiance dans une foi, dans la foi qui sauve, implique demeurer en lui comme notre seule source, notre seule protection dans nos besoins. Et nous pouvons penser à l'expérience de Moïse pour nous réconforter. L'expérience de Moïse. Pendant tout l'exode, Israël était comme un peuple pèlerin qui a quitté l'esclavage de l'Égypte, qui a voyagé au travers de grandes épreuves vers cette terre de la promesse. Mais Dieu était là. Dieu était au milieu du camp, dans l'attente de la rencontre. Et quand Israël a quitté l'Égypte, la gloire de Dieu est allée devant le peuple. C'était une colonne de nuée dans le jour pour protéger le peuple des rayons du soleil. C'était aussi une colonne de feu la nuit pour guider ce peuple. Et c'est la même réalité pour le croyant. Dieu demeure dans la vie du croyant par son Esprit Saint. Nous vivons, nous avançons dans notre pèlerinage sous le soin protecteur de l'amour de Dieu. Nous sommes guidés par la lumière de sa parole. Le psaume 121, par exemple, exprime cette aide. Psaume 121, à partir du verset 3, en parlant de Dieu, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre, ta main droite. » Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et puisque Dieu est notre demeure éternelle, aucun croyant, aucun chrétien ne marche dans cette vie sans habitation, sans demeure, sans maison. Bien que nous soyons rejetés par le monde, bien que nous soyons assaillis par de nombreuses épreuves, parfois même comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui n'avait aucun lieu pour reposer sa tête. Le croyant peut se tourner vers le Dieu avec la même foi qu'Abraham, qui a invoqué le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité, comme il est dit dans Genèse 21-33. L'apôtre Paul se réjouit de la même manière en écrivant à 2 Timothée 4, verset 18, à la fin de sa vie, lui qui a connu tant d'épreuves, il écrit ceci, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Contrairement aux habitations de l'homme mortel, de l'homme de ce monde, des habitations si transitoires, si fragiles, le chrétien trouve un repos sûr dans le Dieu éternel. Spurgeon écrit, « Les palais des rois se sont évanouis sous la main pesante du temps. Ils ont été brûlés par le feu, enterrés sous des montagnes de ruines. Mais la race impériale céleste n'a jamais perdu son habitation royale. Nous demeurons aujourd'hui là où nos pères se trouvaient il y a 100 générations. » Nous avons, en tant que croyants, une demeure éternelle en Dieu. Mais quand, après avoir regardé cela, Moïse tourne son attention vers l'existence mortelle de l'humanité. C'est le deuxième point, la nature éphémère de cette vie. La plupart des personnes dans ce monde ne peuvent pas supporter une réflexion au sujet de leur condition mortelle parce que l'anxiété découle de leur absence d'espoir. Ils n'ont aucune espérance. Et donc ils ne veulent pas réfléchir à cette réalité. Mais le croyant peut voir la réalité sur lui-même parce qu'il est sous la protection de l'amour de Dieu. Il est bénéficiaire de cette alliance de grâce. Moïse, vers la fin de sa vie, voit la valeur d'un réalisme, sobre. Et nous aussi, nous pouvons avoir cette même attitude. Tout d'abord, l'homme fait face à la perspective troublante de la mort à la fin des décennies de sa vie. Verset 3, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. » Certains membres de notre race humaine ont vécu ce qui semble une vie extrêmement longue avec Mathusalem, qui a vécu jusqu'à 969 ans. Mais même cette longue vie s'est terminée dans la tombe. Elle est passée comme une veille du soir pour le Seigneur. Et pour la plupart d'entre nous, la vie sera beaucoup plus courte. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour le plus robuste, à 80 ans. Si on regarde une église locale, que l'on voyage dans le temps pour voir cette église locale dans 100 ans, il n'y a pratiquement plus personne. Peut-être sans doute personne parmi nous ici. Pourtant, les hommes sont fiers de leur réalisation, mais à la fin, ils seront tous terrassés. Le roi Salomon a vu cela comme une leçon d'humilité pour nous. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 19, il dit « Le sort des fils de l'homme est celui de la bête, et pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Quelle que soit la santé admirable d'un homme ou d'une femme, en un peu de temps, par le décret de Dieu, nous serons ramenés à la poussière. Et plus on avance, si l'on avance aussi en sagesse, plus on se rapproche de ce jour, plus on, comme Moïse, on tourne nos pensées vers les choses éternelles. La deuxième chose, même pendant nos vies, l'humanité est soumise à un renversement qui peut être parfois soudain. Verset 5, le début, tu les emportes. Et on peut penser à tout ce qui se passe, toutes les tragédies, tout ce qu'on appelle tragédie naturel. Une averse soudaine va entraîner un torrent d'inondation qui va emporter beaucoup de choses. L'humanité vit chaque instant sous cette possibilité. On a la réalité de l'herbe qui jaillit avec la vie quand le soleil brille, avec la pluie, mais qui est emportée. Les affaires de l'homme ressemblent à cela. Enfin, la deuxième partie du verset 5 et le verset 6, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Et on peut imaginer toutes sortes de réalités. Une visite chez le médecin, l'impact lointain sur le marché boursier, des changements éphémères, des affections humaines peuvent bouleverser une vie en un seul moment, en un instant. Et on connaît tous des personnes qui ont subi une angoisse soudaine, d'une manière ou d'une autre. On vit dans un monde qui est en constante insécurité. Et c'est une folie de vouloir construire la maison de notre éternité sur les sables mouvants des espoirs de ce monde. Et pour aggraver les choses, Moïse note que même les affaires normales de la vie sont assaillies, verset 10, de peine et de misère. Un jeune travailleur attend avec impatience une promotion, seulement pour s'effondrer sous la responsabilité quand il obtient cette promotion. La jeune fille aspire au mariage, aux enfants. Quand ils arrivent, son front se ride avec anxiété, avec tension. Et Salomon se lamente, Ecclésiaste 2, verset 21 et suivant. « Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. » Et ces idées sont connues de tous, pas seulement des lecteurs de la Bible. Mais ce que l'homme incrédule ne sait pas, même s'il lutte dans ses pensées, même s'il lève le poing vers Dieu rempli de frustration, ce que l'homme incrédule ne sait pas, Moïse le savait. Parce qu'il avait la révélation de Dieu, parce qu'il a vu cela dans son expérience. La cause du malheur terrestre de l'homme, c'est la colère de Dieu envers nos péchés. Versets 7 et 8, « Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Je rappelle que Moïse est l'auteur des premiers livres de la Bible, notamment de Genèse, Genèse chapitre 3, dont on a lu un passage tout à l'heure. On voit Adam et Ève tomber sous la malédiction de la mort à cause du péché. Non seulement l'homme mourait, mais parce qu'il a brisé l'alliance de Dieu. Il allait souffrir une vie de labeur, une vie de douleur. Genèse 3, verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Moïse, en plus, avait expérimenté les effets du péché quand il a conduit Israël dans l'Exode, à la sortie d'Égypte. Le peuple a pu voir, dès le début, des exemples remarquables de l'aide surnaturelle de Dieu. Et malgré cela, le peuple est tombé dans le péché en se plaignant contre Dieu, en refusant de lui obéir. Et en conséquence, Dieu a condamné cette génération qui est sortie d'Égypte à mourir dans le désert, à ne pas entrer dans la terre de la promesse. Ces Israélites qui auraient pu jouir des bénédictions que Dieu avait offertes dans la terre de la promesse ont passé 40 ans à errer dans le désert, se sont épuisés et sont morts dans ce désert. Ce n'est que lorsque cette première génération est décédée que la génération suivante d'Israël a pu entrer dans la terre de Canaan. Et même Moïse, comme j'ai dit tout à l'heure, était interdit d'entrer dans le pays à cause de son péché quand il a frappé le rocher à deux reprises. Le péché est un grand problème, c'est le grand problème de notre vie. Bien que on ait tendance à ne pas penser de cette façon. Lorsque Moïse crie au verset 7, « Nous sommes consumés par ta colère. » Le problème, ce n'est pas un défaut irritable dans le caractère de Dieu. C'est plutôt la sainteté parfaite, glorieuse, immuable de Dieu en réponse à nos péchés. Le jugement de Dieu contre le péché donne un sens à ce trouble dans cette vie. Un commentateur dit « La vie ne pourrait pas être la chose futile qu'elle est si Dieu n'était pas complètement mécontent des hommes. » On ne considère pas le péché comme notre problème parce qu'on oublie si facilement nos péchés. Mais Dieu, dans sa sainteté parfaite, ne peut pas oublier nos fautes. Moïse le dit, verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face, nos fautes cachées. » La parole de Dieu est remplie de personnes qui espéraient vainement que leur péché soit invisible. Rappelons-nous même David. David, lors de son péché avec Bathsheba, il veut employer la puissance, la ruse pour essayer d'effacer ses traces. Mais tout cet épisode sordide se termine avec cette conclusion en 2 Samuel 11, verset 27. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et la vie ultérieure de David allait être marquée par le salaire du jugement de Dieu. De même que nos péchés sont la cause de la douleur, de la tristesse tout au long de la vie. C'est une folie de vouloir traiter nos péchés à la légère. Et bien que par la foi en Jésus-Christ, nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Les péchés font encore un bourbier de nos relations et de nos efforts dans cette vie. Et Moïse donc demande donc au verset 11, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? C'est une marque de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies, si nous sommes capables de prendre une estimation réelle de nos péchés. Comme le dit Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Compte tenu de cette évaluation de la fragilité mortelle de l'homme, avec notre courte durée remplie de dangers, de problèmes, se terminant par la tombe à cause de la colère juste et sainte de Dieu, Moïse invoque le Seigneur avec cette demande principale dans ce psaume, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La plupart des personnes répondent à ce genre d'évaluation de la vie en priant pour que Dieu nous accorde une exception à l'expérience humaine déchue. Et Moïse, qui savait mieux, demande à Dieu de nous permettre de réfléchir sagement à notre situation. Et dans ce sens, le psaume 90 est l'un des plus réalistes de tous les psaumes, sans une trace d'amertume pour notre misérable état mortel. Et la raison en est que Moïse connaissait Dieu. Il savait que Dieu était en réalité la demeure sûre où tous les espoirs du croyant sont en sécurité. Pendant le séjour d'Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte, certains ont estimé qu'en moyenne, 27 000 Israélites étaient morts chaque année dans le désert. Et la mort était constante. Et donc, elle était constamment devant les yeux, non seulement du peuple, mais aussi devant les yeux de Moïse. Et nous devons profiter des leçons que Moïse tire de cette réalité. La sagesse implique de réaliser que chaque jour est compté. Et qu'un jour sera notre dernier. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse implique une opposition vigilante au péché et aux fausses affirmations du péché. Un commentateur propose donc les résolutions suivantes. Chérissons plutôt que de rejeter les réflexions solennelles sur la mortalité de l'homme, la vanité de son cours et la brièveté de sa vie. Tenons-nous à bien vivre plutôt qu'à vivre longtemps. Chaque fois que nous assistons à un enterrement, je sais que certains ont plus d'expérience que d'autres dans ce domaine, mais on doit noter soigneusement les leçons à tirer de la vie qui est passée dans l'éternité. Et la principale de ces leçons doit être la différence vitale entre le croyant qui passe de la vie dans la demeure éternelle de la grâce de Dieu. Parce que ses péchés ont été lavés, il a été purifié, il a été justifié par la foi, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. La différence entre le croyant et l'incroyant, qui meurt dans la culpabilité de son péché, pour affronter le terrible jugement de Dieu pour l'éternité. Hébreux 9, 27 déclare cette vérité immortelle qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si nous sommes en Christ, nous avons déjà été jugés. Nos fautes ont été mises sur le compte de Christ, qui est mort à notre place. Et nous sommes passés de cette vie, nous passerons de cette vie à la vie dans la présence de Dieu pour toujours. Troisième point, trois prières pour l'homme pécheur. La fin de ce psaume contient des pétitions qui constituent un modèle pour le croyant et ce qu'il doit désirer de la part de Dieu. La première de ces requêtes demande à Dieu de retourner en Israël, non pas avec force ou avec richesse, mais avec miséricorde. Verset 13. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Vivre dans ce monde déchu, c'est affronter quotidiennement la présence, les effets, les conséquences de notre péché. Nous sommes comme les Israélites dans le désert. Nous avons de grandes promesses, mais nous souffrons parce que nous sommes encore loin de notre demeure éternelle. Et ce dont nous avons le plus besoin, ce sont les rappels de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, les assurances que nous donne l'Évangile au sujet de notre salut. Des versets comme Michée 7, 18 devraient être proches de notre cœur. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, 18. On pense souvent, en tant que chrétien, à la conviction de l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, versets 38 et 39, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rappelons-nous de la grâce et de la miséricorde de Dieu qu'il a manifestée envers nous. La deuxième des pétitions de Moïse implique une autre forme de sagesse. Il se rend compte qu'Israël est encore dans le désert et que par la volonté de Dieu, cette vie présente est conçue pour tester notre foi à travers diverses épreuves. Et par conséquent, au lieu de gaspiller sa prière en demandant un changement dans sa situation, Moïse prie pour une modification de son attitude. Et en particulier, il prie que le Seigneur transmette un esprit de joie qui naît de la simple présence du Seigneur. Verset 14. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Et le terme traduit bonté ici par de la fidélité de Dieu à ses promesses dans le cadre de l'Alliance. On est rempli de joie quand on médite les promesses de Dieu, sachant qu'il accomplira tout ce qu'il a promis. Un commentateur écrit ceci, « Savoir que la nation demeure sous l'ombre de cet amour est suffisant pour jeter les bases d'une joie durable envers et contre le chagrin oppressif qui couvrait maintenant depuis quelque temps sur le peuple. Si l'on peut seulement être sûr de cet amour, alors il y a une raison suffisante pour exulter et être heureux tous les jours de sa vie. » Moïse ajoute son appel que les longues années de lutte voient comme récompense des temps correspondants de bénédiction. Verset 15. « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. » Et cette prière a été exaucée quand Israël est entré dans le pays de Canaan. Les tribus qui sont entrés dans Canaan avec Josué, qui ont détruit la forteresse de Jéricho, qui se sont emparés de la terre promise par Dieu, ces tribus avaient bien appris le salaire du péché et de l'incrédulité par toutes les luttes, toutes les épreuves, les difficultés dans le désert. Mais ils ont été instruits par l'épreuve à compter sur la disposition gracieuse de Dieu. Et se sont réjouis dans le Seigneur quand il les a fortifiés avec sa puissance pour s'emparer de cette terre qui leur était promise. Et l'apôtre Paul lance un appel similaire dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4. Une lettre qui contient de nombreuses preuves de l'amour inébranlable de Dieu. Philippiens 1, verset 6, par exemple, qu'on cite assez souvent. « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il rappelle à ses lecteurs que « Christ est ma vie, mourir m'est un gain. » Philippiens 1, 21. L'apôtre Paul exalte l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui est devenu serviteur, qui s'est humilié, qui a mis de côté sa gloire, qui a porté sa croix. Il leur rappelle que par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la justice de Dieu. Nous connaissons notre Seigneur dans la puissance de sa résurrection. Mais quelle est l'exhortation de l'apôtre Paul? C'est la même chose que l'appel de Moïse à Dieu, qu'un esprit de joie s'élève dans le cœur du croyant. Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. J'ai dit qu'il y avait trois appels, trois prières dans la fin de ce psaume. Le premier pour un retour de la miséricorde de Dieu. Le second pour la joie dans nos afflictions et à cause de l'amour de Dieu pour nous. Le dernier appel est celui qui nous parle de nos diverses responsabilités chrétiennes, versets 16 et 17. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est une bénédiction que dans les brèves années de notre vie, nous ayons un appel significatif du Seigneur qui fournira un héritage durable. Remarquez que Moïse ne demande pas simplement à Dieu de donner une bénédiction à notre travail. Non, il fait appel au Seigneur pour qu'il nous montre son travail, qu'il permette ensuite à ce travail de briller comme une démonstration de sa puissance pour la foi de nos enfants. Moïse se rend compte qu'il a besoin de deux choses pour jouer un rôle significatif dans l'œuvre du salut de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu lui soit montrée et pour que la bénédiction de Dieu se répande à travers cette œuvre. La prière de Moïse montre que ceux qui sont le plus conscients du dessein de Dieu dans le monde sont les plus préoccupés par le fait que leurs enfants embrassent le Seigneur dans la foi. Et cela devrait faire partie d'une prière de l'Église au début et à la fin de chaque année. Que la parole qui est prêchée, les prières qui ont reçu leur exaucement, les œuvres qui sont accomplies, que par tout cela, nos plus jeunes prennent conscience de la réalité de Dieu, de la valeur inestimable de son salut. Consacrons nos vies, non pas à nos œuvres, mais à son œuvre. Et le cœur de ceux qui aiment le peuple de Dieu. C'est ce cœur qui conclut avec cet appel de Moïse. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Si on résume le psaume 90, on peut dire que ce grand psaume de Moïse ressemble beaucoup au célèbre poème de David, le psaume 23. Moïse élève son cœur vers le Père éternel en qui repose son espoir de demeurer. David regarde à Dieu comme le berger qui aime. Et finalement, il regarde au Seigneur Jésus-Christ qui guide son peuple dans la vie éternelle. Le dernier verset du psaume 23 est étroitement lié au verset d'ouverture de ce psaume 90. Alors que Moïse célèbre sa demeure dans le Dieu éternel, tu as, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. David, dans le psaume 23, verset 6, écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et la question qu'on doit poser au psaume 23 concerne la clé du psaume 90 pour obtenir cette demeure éternelle en Dieu. Est-ce que David, dans le psaume 23, exalte la force des brebis? Est-ce que David écrit que ce qui fait la différence, c'est d'être capable de naviguer le voyage de la vie par soi-même, de forger son propre chemin à travers la vallée de l'ombre de la mort? Non. Pour le psaume 23, la clé pour entrer à jamais dans la maison de l'Éternel, c'est de pouvoir dire avec David au début du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Quiconque se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, ce bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, déclare « Il est mon sauveur ». Le Seigneur Jésus est mon Seigneur, il est mon guide. Il peut aussi déclarer avec confiance « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours ». Il en va de même pour le psaume 90. Est-ce qu'on aspire à une demeure sécure pour l'éternité? Est-ce qu'on ressent dans notre cœur le désir d'une signification qui va durer au-delà de ces années courtes de cette vie mortelle? Est-ce qu'on ressent la frustration face aux ravages du péché dans la société et dans notre propre expérience? La clé de notre accomplissement réside dans ce verset. Verset 17, où Moïse plaide que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Moïse peut appeler le Créateur de toutes choses, l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que nous, on peut dire, il est mon Dieu? Est-ce qu'on peut se réjouir de savoir qu'il est celui qui est fidèle? Il est fidèle pour son peuple et que je fais partie de ce peuple. On peut connaître l'acceptation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ son Fils. L'apôtre Jean écrit en Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » En croyant au Seigneur Jésus-Christ, chacun peut se réjouir en Dieu comme dans sa demeure éternelle, celle qui ne changera jamais, celle qui ne sera jamais détruite. Et lorsque cette vie arrivera à son terme, lorsque cette vie brève arrivera à sa conclusion, on fera avec Moïse l'expérience de l'accomplissement de cette prière. Nous connaîtrons, nous serons rassasiés chaque jour de la bonté de l'Éternel. Nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Alors oui, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.